Chaque jour, effectivement, un expert de l'économie vient déconstruire des idées reçues et consensus, un peu trop facile à ses yeux. Aujourd'hui, c'est notre expert maison, Emmanuel Le Chip, qui nous accompagne. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
C'est vrai que les programmes des différents partis mettent en avant le social. Mener une politique sociale, mais efficace, malgré tout, économiquement, est impossible. Ça, on l'entend souvent, ben vous vous dites « Bullshit !» Vous foudroyez. Cette idée qu'on ne pourrait pas faire de social sans aggraver les déficits. Les programmes de l'opposition à Emmanuel Macron, Rassemblement National, Nouveau Front Populaire, promettent tous davantage de dépenses sociales et des baisses d'impôts pour ce qui concerne le Rassemblement National notamment. Est-ce qu'il est possible à la fois de satisfaire les Français avec ce genre de politique sans plomber les finances publiques, Emmanuel ?
Alors, si on regarde le track record de l'économie française depuis 40 ans, on a quand même plutôt envie de répondre non. Non, pourquoi ? Parce que, sur le papier, la France est un des pays aujourd'hui les plus égalitaires et les plus redistributifs du monde. Je vous rappelle qu'avant impôts et prestations sociales, l'écart entre les 10% de Français les mieux payés et les 10% de Français les moins bien payés va de 1 à 18. Ce rapport est ramené de 1 à 7 quand on prend en compte la redistribution financière et de 1 à 3 quand on prend en compte l'accès aux services publics, éducation, santé, logement, etc. Donc, on a un des pays les plus égalitaires, sauf que dans le même temps, quel est le pays dont le niveau de vie s'est le plus dégradé par rapport aux autres grands pays au cours des 30 dernières années ? C'est la France. On a quand même perdu quasiment 0,5 points par an de PIB par habitant par rapport aux autres pays de l'OCDE. Hein, c'est quand même beaucoup. Qui est le pays parmi ceux qui tient le moins bien ses finances publiques ? C'est la France. Et qui est le pays qui a le plus perdu en compétitivité aussi ? C'est la France. Donc, cette idée, effectivement, aujourd'hui, de dire un modèle social généreux et la compétitivité, la France nous montre que c'est compliqué.
Mais il y a bien des pays qui arrivent à combiner les deux.
Oui. Aujourd'hui, c'est possible. Alors, c'est surtout, effectivement, des pays qui ont des caractéristiques assez particulières, qui sont les pays d'Europe du Nord pour la plupart. Alors, c'est quoi ces caractéristiques particulières ? C'est, une culture social-démocrate qui se traduit, c'est vrai, par une acceptation profonde des mécanismes de solidarité. Acceptation d'autant plus facile que les services publics sont performants. Il y a dans ces pays une acceptation de l'impôt, là aussi plus facile quand l'État fonctionne bien. Il y a incontestablement la culture protestante qui impose une morale assez stricte à la fois de chacun envers soi-même pour respecter les règles de la collectivité et aussi sur les autres pour qu'ils respectent les règles de la collectivité, parce que si vous ne respectez pas les règles communes, eh bien vous avez autour de vous une pression sociale qui fait que vous devez respecter ces règles. Et puis dernier critère, c'est que ce sont des petits pays et que la réalité, c'est qu'il y a des politiques économiques qui sont applicables dans des petits pays qui ne le sont pas forcément dans les grands. Et ça, c'est effectivement la raison, c'est que c'est les problématiques sont exponentielles dans pays, et donc plus vous avez un grand pays, plus c'est compliqué à gérer.
Comment vous pouvez dire ça ? Il y a beaucoup de pays qui ont réussi à concilier politique sociale et politique compétitivité efficace sans être ni petit, comme vous dites, ni scandinave.
Exactement, vous avez raison. Alors reprenons par exemple le cas des États-Unis, qui n'est pas un pays scandinave et qui n'est pas un petit pays. Si vous regardez dans les années 60, on a les 0,01% des Américains les plus riches qui payent deux fois plus d'impôts qu'aujourd'hui, quasiment, 70% de taux d'imposition. Un syndicalisme puissant, une croissance spectaculaire et des fruits de la croissance équitablement partagés. Et ça a été vrai aussi en France pendant les 30 Glorieuses, avec la montée parallèle à la fois de l'État-providence et d'un enrichissement sans précédent.
On est au cœur de la famille BFM Bourse. Vous le savez, Emmanuel, ici, c'est la famille BFM Bourse. Et en famille, on ne se fait pas de cadeaux. Jean-Louis vous interroge.
Bah oui, parce qu'on peut s'interroger quand même. Pourquoi ce qui était possible à l'époque, pendant les 30 Glorieuses, pourquoi on n'y arrive plus là depuis 40 ans ?
Eh bien, on n'y arrive plus parce que, et c'est là où je voulais en venir, en fait, la clé de voûte de tout notre édifice économique, social, de prospérité, c'est uniquement la productivité. La productivité, je vous cite ce que disait Paul Krugman, c'était en 1990, c'est une phrase qui est rentrée dans les annales de la pensée économique. Il disait, Paul Krugman, et il dit toujours, la productivité, ça n'est pas tout, mais sur le long terme, c'est presque tout. Et c'est à cause de la productivité, grâce à la productivité, que les pays peuvent devenir plus prospères et redistribuer tout en restant compétitifs. Or, on était sur une tendance structurelle à la hausse de la productivité jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, et c'est après que ça se gâte. Et c'est pour ça que cette conciliation entre prospérité et modèle social généreux était possible dans les pays riches dans les années 60 et qu'elle ne l'était plus après. C'est après le premier choc pétrolier que commence ce qu'on appelle la rupture d'efficacité de la combinaison productive. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est en 1975 que sort un livre fameux publié par Okun qui s'appelle « Equality and Efficiency, the Big Trade-off ». Et oui, c'est là qu'on se commence à se dire que les deux ne sont pas conciliables. Et c'est vrai qu'au cours des deux dernières décennies, la moyenne de l'OCDE en gain de productivité est tombée à 1%. Je vous rappelle que dans les années avant les années 70, on a été à 4,5% de gain de productivité par an. On est tombé à 1%.
Aïe.
Et ça, c'est effectivement la clé de tout.
Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce qu'on a des outils à notre disposition pour essayer de booster justement cette productivité ?
Eh bien, je crois que le message encourageant qu'on peut apporter, c'est de dire... Demain, cette réconciliation entre l'efficacité et la générosité, elle est possible parce que, allez, on peut dire qu'on va sans doute vers une période de redressement de la productivité. Pourquoi ? Je vous cite une étude du National Bureau of Economic Research américain qui dit que, par exemple, le nouvel environnement de travail hybride pourrait apporter près de 5% de l'augmentation, près de 5% de gains de productivité. Les pénuries de main-d'œuvre vont contraindre aussi à l'efficacité. Il y a la fameuse courbangie de l'innovation. Vous savez, le temps d'adaptation, la productivité baisse et puis après, elle repart en flèche. D'abord, une lente croissance, puis après, ça redémarre. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, les délais sont complètement comprimés. C'est-à-dire que ce qui mettait avant 2, 3, 4, peut-être 10 ans à se diffuser comme nouvelle technologie et comme gain de productivité, vous voyez qu'avec l'intelligence artificielle, on aura un retour sur investissement qui sera beaucoup plus rapide qu'avant. Quand vous mettez tout ça bout à bout, on se dit... Oui, plus de productivité demain, c'est possible. Ça n'est pris en compte par aucune de toutes les projections que vous avez en matière de retraite, par exemple, hein, puisque c'est là aussi ce qui déterminera le niveau de nos retraites. Mmh. Vous n'avez aucune intégration de tout ça dans tous les programmes électoraux.
Oui. Mais ça se décrète ou pas la productivité ? Est-ce que les politiques peuvent décréter un retour de la productivité ?
Alors, vous pouvez créer, si vous voulez, le terreau favorable à la productivité, créer un terrain économique propice à l'innovation. Ça, malheureusement, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. C'est pas vous qui allez faire pousser sur ce terreau. Mais vous pouvez créer un terreau qui donne les conditions. Et après, place à, même pas à l'innovation, place à l'invention. Parce que c'est bien ça le sujet. Je vous cite Jack Welch, l'ancien patron de General Electric, hein, qui avait une phrase absolument formidable. Il disait « The market is bigger than our dreams ». Le marché est plus grand que nos rêves. Donc, il y a beaucoup de choses à rêver, beaucoup de choses à inventer pour, au final... peut-être un modèle social plus juste.
Ouais, ouais. Il m'arrive la nuit de rêver des marchés, même ça, manifestement, c'est pas aussi grand que le marché lui-même. Oui, c'est magnifique. C'est sur cette phrase qu'on va se quitter. C'est la famille BFM Bourse. Il faut savoir s'envoyer des mots doux, se dire au revoir, et pour mieux se retrouver le lendemain, c'est la famille chaque jour, 16h30, 18h. Emmanuel Lechypre, éditorialiste BFM Business,